Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
François Clauss.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Céline Acosta.
Bonjour François et bonne année.
Et meilleurs voeux évidemment, et on va vous concocter un spécial 1er janvier dans Culture Média. Écoutez un peu la radio avant de partir sur les pistes au soleil, c'est pas une mauvaise idée. On va notamment vous décrire tout ce que vous allez voir à la télé en 2020. Évidemment, comme le disait Pierre Devineau il y a quelques instants, on n'a pas 10 heures de programme, mais on va vous synthétiser tout ça parce que l'année 2020 s'annonce très très riche en matière de création télévisuelle, le divertissement, les séries qui vont arriver avec les plateformes, on en parlait hier, qui se font la guerre, mais qui à l'arrivée apportent dans cette concurrence sauvage énormément de produits pour nous les consommateurs de télé. Ça va être une grande année de sport également puisqu'on va enchaîner l'Euro de foot, le Tour de France, les Jeux Olympiques à Tokyo, une grande année politique aussi avec les municipales en France et l'élection américaine. Bref, demandez le programme télé 2020, vous l'aurez dans quelques instants et on sera accompagné dans cette double réflexion par deux grands spécialistes de la télé, Damien Canivès qui est journaliste à TV Mag et Enguerrand Renaud qui est rédacteur en chef Média et Technologie au Figaro. Ils seront tous les deux dans ce studio dans quelques instants. Et puis on va être très zen avant de partir sur les pistes ou ailleurs. C'est le moment où jamais, je ne sais pas Céline, si vous êtes abonné à Happiness, à Respire.
Non, mais peut-être ça va être une de mes résolutions, tiens, en 2020.
Yoga Magazine, voilà. Psychologie positive, et bien tout ça, c'est le même groupe de presse. Il est dirigé par Madame Nathalie Cohen, qui sera avec nous pour nous expliquer un peu ce marché mirifique là, de la presse, du bien-être, du yoga, qui colle à l'air du temps et puis qui va coller à notre journée aujourd'hui, après peut-être les effluves de la nuit. Vous avez peut-être écouté le 25 décembre dernier dans Culture Média les indispensables de la rédaction et des programmes d'Europe 1, eh bien on a tellement aimé ça qu'on vous remet ça en ce 1er janvier. Les indispensables, ce sont les journalistes culture qui viennent avec Philippe Vandel tous les jours vous proposer des programmes, des livres, des séries. Et eh bien là, on a demandé aux animateurs et aux journalistes d'Europe 1 que vous écoutez tous les jours, ça vous permettra de les découvrir peut-être sous un autre angle, de nous présenter ce qui les a marqués sur le plan culturel au cours de l'année 2019. Un film, un livre, une BD, une expo, vous allez voir, c'est passionnant et ils nous ont fait le plaisir d'être là malgré leurs vacances. Vous entendrez Mathieu Béliard qui revient demain matin à l'antenne, Bernard Poirette, l'homme du week-end, Sophie Armoyer qui présente tous les week-ends les carnets du monde, et Nathalie Lévy pour le grand journal du soir, tous les soirs de 18h à 20h. Ils vont venir avec leurs indispensables sous le bras et ça va être une heure très sympathique qui va vous donner beaucoup de conseils. Nos meilleurs vœux bien sûr à toutes et à tous. C'est parti pour Culture Média et nous sommes ensemble, Céline, jusqu'à 11h. Et comme tous les jours, 1er janvier ou pas, le journal des médias fidèle au poste, Lise Pressac. Bonjour Lise.
Bonjour François, bonjour à tous.
Alors une partie de la France y a été privée de TNT, et c'est pas une grève là,
non,
c'est la météo.
Exactement, ça fait même depuis plusieurs jours, la coupure concerne de nombreuses communes de l'ouest et du nord de la France, c'est depuis le week-end dernier. Alors l'image de leur téléviseur se pixelise, puis se bloque, certaines chaînes disparaissent, et le son se fait soudainement saccader. Une réception perturbée par les conditions météo de ces derniers jours, des variations importantes de température, de la pression atmosphérique, puis du beau temps. De quoi brouiller la réception de la TNT, explique l'Agence Nationale des Fréquences. Alors il est conseillé aux téléspectateurs concernés de patienter, sans intervenir sur leur récepteur. Tout devrait rentrer dans l'ordre aujourd'hui.
On imagine qu'il y a un peu d'impatience hein, dans ces régions, surtout que ce soir, il y a un programme à ne manquer sous aucun prétexte, championnat du monde de bûcheronnage.
Oui, c'est ce soir, à partir de 21h10 sur l'équipe TV, près de 3 heures de haches et de tronçonneuses électriques. Alors ça peut faire peur comme ça, mais en fait c'est du très grand spectacle, comme dans n'importe quel sport, il y a plusieurs tours. Une épreuve éliminatoire au temps qui permet de se qualifier en quart de finale directement, une manche de repêchage, puis des quarts, des demi-finales et une grande finale. Les 12 meilleurs bûcherons du monde s'affrontent à Prague, en République tchèque. Écoutez l'épreuve de scie entre le néo-zélandais Shane Jordan et l'américain Cassidy Shear.
3, 2, 1, go!
Cassidy Shear au premier temps, premier plan, Shane Jordan derrière.
Ça va très bien pour Cassidy. Ouais.
Shane Jordan, j'ai vu sa lame se.
Très belle technique.
Se tordre une ou deux fois.
Ouh.
13-42 pour Shear et Jordan, ouais. Jordan Shear, et c'est Shear qui l'emporte. Jordan, lui, sa lame, elle est un petit peu. Je l'ai vu au début, elle est un petit peu accrochée, elle s'est un petit peu tordouillée, Alexandre, et c'est sans doute là qu'il a perdu les dixièmes qui ont fait que Shear a fait mieux que lui.
Là, il faut imaginer.
C'est qui coupe le plus de bois.
Ouais,
en
il faut
moins
imaginer. Les scies sont très impressionnantes. Ça fait au moins 2 mètres de long. Cela fait 2 ans que l'équipe TV diffuse ce programme avec au commentaire Xavier Richefort, Alexandre Meurice, qui est l'un des meilleurs bûcherons français, et l'animateur Florian Gazan. Il nous explique comment il se prépare à ces championnats du monde au micro d'Alexandre Omar.
Ces championnats du monde de bûcheronnage sportif, c'est un peu comme un décathlon, un pentathlon. Il y a différentes épreuves qui sont souvent les mêmes. Donc, par exemple, le stock saut qui est avec une grande scie de 2 mètres, un passe-partout, trancher un arbre. Le springboard qui consiste à monter sur un tronc et à le hacher alors qu'il est sous vos pieds. Bon, voilà, il y a plein de disciplines différentes qu'on a appris à découvrir avec après toutes les finesses sur les types de tronçonneuses, les haches, le bois qui n'est pas forcément toujours le même suivant les épreuves. Parfois c'est du pin blanc, parfois c'est du peuplier. Donc voilà, on prépare ça comme on préparerait un match de foot, un match de tennis ou une course cycliste. On essaye d'avoir le maximum de données et d'informations pour le faire partager au mieux aux téléspectateurs.
Alors, quant aux favoris de la discipline, ils sont néo-zélandais et australiens, comme au rugby. L'équipe de France sera, elle, représentée par Pierre Puybarret, 4 fois champion de France. Les championnats du monde de bûcheronnage, c'est à voir ce soir sur l'équipe TV à partir de 21h10.
Et vous avez vu Lise Pressac, elle est passionnée par le bûcheronnage.
Je m'y suis intéressée tout l'après-midi hier.
Alors, moi, j'ai coupé de la bûche hier. Mais enfin,
Une autre bûche.
Donc, c'est le moyen d'enchaîner avec le stand-up de France 2.
Exactement, direction le Paname Art Café dans le 11e arrondissement de Paris. Depuis 2008, ce lieu est une véritable pépinière de talent qui a révélé et accueilli de nombreux humoristes, Farid, Thomas VDB, Norman, Nawel Madani, Gaspard Proust et Mathieu Madénian, qui présentent cette soirée Génération Paname sur France 2.
Le Paname, là, vous allez voir 10 artistes, des stand-upers et des stand-upers, mais sachez que chaque semaine ici, il y a 150 comédiens qui viennent jouer, 150 comédiennes qui viennent jouer. On est une famille, en fait. On adopte des gens sans arrêt ici. On est les Hallyday du stand-up, voilà. Sauf que nous, on ne se disputera pas parce qu'il n'y a pas d'héritage, il n'y a pas d'argent. Sachez que toutes les personnes qui montent sur scène ce soir, pour vous, le font gratuitement. Et ils viennent de l'apprendre. C'est les cris que vous entendez. Oh l'enculé ! C'est la joie. Ça s'appelle la joie. Vous êtes prêts à continuer ?
Oui !
Applaudissez le prochain. Il s'appelle Pierre Tevenou, s'il vous plaît.
Voilà, vous découvrirez ou redécouvrirez 10 humoristes qui se livrent à ce difficile exercice du stand-up. C'est à voir ce soir sur France 2 à partir de 23h35.
Et puis Lise, autre belle soirée en perspective sur France 2, les 30 ans du magazine Envoyé spécial.
Vous vous rappelez de ce générique ? En 1990, année de lancement d'Envoyé spécial, magazine d'information diffusé sur Antenne 2 et présenté à l'époque par Paul Naon et Bernard Benyamin. L'émission va fêter ses 30 ans le jeudi 23 janvier lors d'une soirée spéciale animée par Élise Lucet. Longue soirée de 21h05 à 5h du matin. Au programme, les portraits de 3 jeunes qui sont en train de changer le monde, le chanteur Bilal Hassani, la militante écologiste Greta Thunberg et le footballeur Kylian Mbappé. L'émission reviendra ensuite sur les grands thèmes traités par l'émission au cours de ses 30 années d'existence. Enfin, de 00h35 à 5h du matin seront rediffusés les reportages les plus marquants du magazine. La grande nuit spéciale 30 ans d'Envoyé spécial, ce sera le 23 janvier.
Et on va terminer ce journal avant d'avoir les audiences d'hier, Lise, avec le bilan des audiences de l'année 2019.
Alors promis, après on arrête les classements, mais en ce 1er janvier, on a encore
c'est
le
dommage.
Droit. En tête des audiences télé de 2019, TF1, avec 85 des 100 programmes les plus regardés, mais avec une part de marché tombée pour la première fois sous la barre des 20%. La chaîne peut dire merci aux 10,7 millions de téléspectateurs de la Coupe du Monde féminine de football. Ce sont les 3 premières meilleures audiences de l'année, toutes chaînes confondues. Autre succès de TF1 en 2019, sa série Le Bazar de la Charité et l'émission de divertissement Masked Singer. France 3 peut quant à elle compter sur sa série Capitaine Marlowe et M6 sur le football quand elle a les droits.
Ce qui sera le cas pour l'Euro 2020
voilà,
d'ailleurs.
Selon Médiamétrie, en 2019, les Français ont passé en moyenne 3h40 devant leur télé, soit 6 minutes de moins que l'an dernier, des minutes qu'ils ont sans doute passées sur Netflix et autres plateformes.
Ou sur les autres plateformes. Ouais. Merci beaucoup Lise. Les audiences d'hier, vous parliez de Capitaine Marlowe.
Oui.
Eh bien, troisième seulement hier, 2 266 000
spectateurs. C'est une soirée spéciale, le réveil.
Alors en face, il y avait TF1, le grand bêtisier. En tête, plus de 3 183 000 téléspectateurs. Et en deuxième position, on en parlait hier, la grande soirée de la chanson française sur France 2, animée par 3 jeunes femmes de la chaîne. 2 848 000 spectateurs.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média. François Clauss.
Et c'est Laure-François de l'Info Média du jour.
Certains d'entre vous sont peut-être à l'heure où nous parlons en ce 1er janvier, un peu après 9h du matin, sur leur canapé. Ils sortent des derniers effluves de la fête pour certains. D'autres, en revanche, se sont couchés très tôt parce que les cotillons, on en a un petit peu marre. Et ben, tout ce beau monde se dit, le 1er janvier, c'est le moment idéal pour allumer sa télé, se regarder une bonne série, un bon programme de sport peut-être, peut-être du côté de l'Angleterre, qui est à peu près le seul endroit où on pratique du sport encore le 1er janvier. Et donc, nous avons eu l'idée, avec toute l'équipe de Culture Média, de nous ouvrir à la télé de l'année 2020 qui s'ouvre en ce 1er janvier, car ce sera une année fondamentale, l'année de tous les bouleversements sur le plan de la loi, sur le plan de la pratique aussi. Nous évoquions hier l'arrivée, la guerre des plateformes. Elles vont avoir des conséquences, bien évidemment, sur la télé. On va essayer donc de vous dire tout ce que vous allez voir, découvrir en 2020. Et nous sommes heureux d'accueillir ce matin dans Culture Média, béni soit-il d'être avec nous un 1er janvier en direct, deux grands spécialistes de la télévision, monsieur Damien Canivès, bonjour.
Bonjour François, bonjour à tous.
Vous êtes journaliste média à TV Mag, bonjour monsieur Enguerrand Renaud.
Bonjour François.
Vous êtes rédacteur en chef média et technologie au Figaro, journal de référence dans tous les domaines, et donc on va baliser avec vous l'ensemble de ces changements à venir, en commençant peut-être tout simplement, Damien Canivès, par les grands programmes, les grands moments qu'on peut attendre, et là il va y avoir du lourd en 2020.
Oui, il va y avoir du lourd effectivement François, parce que c'est vrai qu'avec l'avènement des plateformes de vidéo à la demande, en fait la télévision s'est rendue compte que pour survivre elle devait absolument ancrer des rendez-vous très ponctuels, des rendez-vous surpuissants, et faire en sorte de créer l'événement. On l'a vu en 2019 notamment avec Masked Singer et le Bazar de la Charité, deux programmes complètement différents qui ont cartonné, hein, le Bazar de la Charité. Les deux premiers épisodes, à titre d'exemple, ont rassemblé 8 millions de téléspectateurs. Masked Singer, souvenez-vous, ce concept sud-coréen où des personnalités chantaient sous un masque, pareil, 5,7 millions de téléspectateurs en moyenne.
C'était sur la... deux des grosses surprises de
l'année. Grosses surprises de l'année, et ça va d'ailleurs revenir sur TF1 courant 2020, puisque la direction de TF1 a annoncé d'ores et déjà qu'une deuxième saison serait à l'antenne en 2020, avant même la diffusion de la finale de la première saison. Preuve d'ailleurs que ça fonctionne. Et effectivement, TF1 notamment a bien l'intention de continuer sur sa lancée en surprenant son public avec d'autres concepts. On a déjà annoncé Spin the Wheel avec Jean-Luc Reichmann, hein, qui est un concept qui est diffusé aux États-Unis actuellement sur la Fox, où des candidats tentent de gagner de l'argent en répondant à des questions de culture générale face à une énorme roue. Alors là aussi, le concept est assez alléchant parce qu'on peut gagner plusieurs dizaines, voire des dizaines de millions d'euros. Hein.
C'est ça qui est en jeu. C'est pas tant le concept innovateur, mais plutôt ce qu'on propose à l'arrivée aux téléspectateurs.
Il faut savoir qu'à chaque question, en fait, la somme est remise en jeu. Donc c'est là toute l'audace du concept. Mais effectivement, vous avez raison, François, sur la forme, rien de neuf sous le soleil. En tout cas, voilà, on va peut-être voir des personnes gagner plusieurs dizaines de millions d'euros. Hein. Dans les faits, c'est ce qui peut se passer. On a également M6, hein, qui a récemment annoncé aussi la nouvelle émission de Julien Courbet, qui va être mon associé, où des anonymes vont venir proposer leur projet à des entrepreneurs, et ils seront libres ou pas d'ailleurs de s'associer à eux. Donc voilà, alors ça c'est pour le secteur du divertissement. Et après, il y a la série qui doit effectivement être très audacieuse dans l'écriture et sur la forme, puisqu'on a parlé des plateformes de vidéo à la demande qui attirent de plus en plus de téléspectateurs. Là aussi, TF1 va tenter de tirer son épingle du jeu, avec notamment Peur sur le lac, hein, le spin-off de la série Tueur sur le lac avec Julie Debona. On sait aussi que TF1 prépare, vous savez, Demain nous appartient, ce feuilleton quotidien qui est en access prime time sur la première chaîne de France, qui marche, qui cartonne. Eh bien, la première chaîne a l'intention de surfer sur ce succès, et on dit même qu'on prépare un deuxième feuilleton. Alors on ne sait pas si ce sera de l'hebdomadaire ou de la quotidienne. En tout cas, voilà, on sait que ça c'est dans les tuyaux. Et puis il y a plein d'autres séries sur TF1 H24, qui est une série hospitalière aussi, qui raconte le quotidien de quatre infirmières. M6, hein, on avait parlé, souvenez-vous, l'année dernière de cette fiction qui raconte l'histoire de Xavier Dupont de Ligonnès. Hein, c'est une mini-série avec Arnaud Ducret qui s'appelle Un homme ordinaire, pareil.
S'inspire. Alors, il y a eu le succès de Grégory sur les faits divers qui deviennent des éléments de récit et qui fonctionnent très très bien auprès du public.
Ça cartonne, effectivement, ça cartonne. On a pu le voir sur TF1 avec Cadmérade, hein, Xavier Dupont de Ligonnès, c'était 5 millions de téléspectateurs. Ça avait absolument cartonné. On voit aussi que les magazines du groupe M6, notamment Enquête criminelle, hein, cartonnent aussi justement sur ce créneau-là. Donc, le fait divers, de toute façon, à la télévision, c'est quelque chose qui marche. Et maintenant, en fiction, émission. Les chaînes ont bien compris aussi qu'il fallait mettre le paquet là-dessus.
Là, on peut dire, Anne-Guérande Renaud, que la pléthore de l'offre, on évoquait les plateformes hier de OCS, Amazon, que Disney+ qui va arriver, Canal+ qui viennent en plus de Netflix qui tenait la place jusqu'à
d'Amazon
maintenant.
D'Amazon et d'Apple TV+. Hein.
Absolument, vont amener en fait beaucoup de contenu et on annonce en termes de séries des suites ou des créations qui devraient trouver leur public cette année.
Oui, effectivement, ils monopolisent une grande partie de l'audience hein, maintenant. On disait par exemple, on a calculé, alors ça se fait peut-être pas comme ça, mais Netflix fait l'audience d'une chaîne comme France 5 aujourd'hui. Là, il va y avoir, vous parliez de la guerre, il faut quand même se rendre compte qu'il y a des géants qui arrivent. Disney+, qui arrive, Netflix qui met déjà plus de 10 milliards de dollars dans ses programmes, Disney va en mettre quasiment autant.
Le catalogue de Disney, c'est 620 films, je voyais,
oui.
Et il faut rajouter les documentaires de National Geographic, c'est
les
tout le catalogue Marvel,
Pixar,
Star Wars qui va arriver.
C'est
là.
Gigantesque, c'est absolument gigantesque. Et on va avoir un problème, qui est le problème du temps, puisqu'on est dans une économie de temps disponible. Puisque, très honnêtement, si le temps qu'on ne passe plus devant TF1 ou France 2, si on le passe devant Netflix, il n'est pas extensible. On passe aujourd'hui d'OCS à Amazon Prime et Netflix, mais si on doit en plus regarder les séries et les films sur Disney+, qu'on passe un peu de temps sur Apple TV+, qu'on attend HBO Max et Peacock qui va arriver, on ne va pas y arriver. Quoi.
J'imagine la tête des parents quand on sait que des adolescents regardent déjà leurs écrans entre 5 et 6 heures par jour.
Voilà.
Qu'est-ce que ça va être demain ? C'est un sujet dont on traitera évidemment très vite dans Culture Média parce que les conséquences, hein, au moment où on forme son cerveau, ne sont pas anodines. Dans les grandes séries qui vont arriver, on attend du côté de Canal+, Bureau des Légendes, saison 5 notamment.
Oui, effectivement. Alors Canal+, va effectivement aussi proposer de belles séries, mais je pense aussi au service public aussi qui a l'habitude de cartonner. Nous, c'est vrai que le matin aussi à TV Magazine, on a pour habitude de donner les audiences de la veille et on se rend compte que le service public n'est jamais en reste sur la fiction française. Parlons de Capitaine Marlowe aussi qui va proposer des numéros
inédits. Toutes les audiences systématiquement
la
quand
fiction française
débarque à l'écran,
la plus puissante de la télévision française.
Ils ont réussi à placer 3 Capitaine Marlowe dans les 10 premières audiences de l'année 2019, c'est vraiment un exploit.
Exactement, c'est assez incroyable. Meurtra aussi, cette collection de fiction qui ne cesse de cartonner et qui arrive toujours en tête des audiences face à des mastodontes d'audience qui sont sur TF1. Maintenant, on se rend compte que TF1, avec ses divertissements, ne peut plus rivaliser face à France 3 et ses Meurtra. On a également Cassandre aussi qui va revenir avec Gwendoline Hamon. On a de la fiction avec Michel Bernier, la stagiaire aussi qui cartonne. Enfin, il faut vraiment souligner aussi, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de la qualité de Canal+, l'écriture, l'audace, etc. Mais il faut aussi parler de France 3 qui, selon moi, n'est pas assez mise en avant parce que ça fait des millions de téléspectateurs et c'est vrai que c'est pas assez souligné, je trouve.
Vous avez vu le nombre de choses qu'on va pouvoir voir en 2020, soyez rassurés, même plutôt peut-être inquiets du choix. Nous allons faire une courte pause et puis on va parler des autres grands événements à venir. 2020, grande année du sport. 2020 qui sera très griffé. Amérique aussi, puisqu'on attend une élection qui va sûrement passionner le monde autour de Donald Trump. Nous sommes avec Damien Canivet, journaliste média TV Mag, et avec Enguerrand Renaud, rédacteur en chef au Figaro.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média, François Claus.
On parle ce matin dans l'info média du jour des événements médias qui nous attendent en 2020. On en parle avec vos invités, François, Damien Canivet, journaliste à TV Magazine, et Enguerrand Renaud, rédacteur en chef média et technologie au Figaro.
Je parlais d'une année très sport. Quand on regarde le calendrier qui se profile, alors c'est le lot des années paires. Hein. Euro de football. 12 juin, 12 juillet, avec une équipe de France, rappelons-le, championne du monde en titre. En termes d'audience, ça devrait être l'un des moments forts de l'année.
Et des beaux matchs en perspective. Hein.
Des beaux matchs en perspective et qui va
contre
couvrir, puisque c'était...
Ça va être plutôt chaud.
Allemagne et Portugal, rappelons-le, voilà. Entre autres, comme adversaires de la France au premier tour. 12 juin, 12 juillet, Tour de France. Toujours un grand moment de communion familiale pour le service public. 27 juin, 19 juillet. Et on enchaînera avec les Jeux Olympiques à Tokyo. 24 juillet, 9 août. Une délégation française qui sera vraisemblablement très bien préparée puisque les prochains JO, c'est à Paris et qu'une Olympiade se prépare sur 4 ans. Bref, tout ça va coûter très cher aux chaînes de télé, hein, parce que l'Euro se déroule partout sur le continent, de Bakou jusqu'à Édimbourg. Les JO, c'est à Tokyo. Le Tour de France, on en connaît le coût. Ce sont de gros budgets, de grosses audiences à venir qui vont marquer l'année 2020.
Oui, c'est vrai que pour TF1 M6, c'est un gros challenge. Hein. Vous l'avez rappelé, du 12 juin au 12 juillet, les deux chaînes vont se partager en exclusivité et en clair, il faut le rappeler, les 23 meilleures affiches de la compétition, dont 12 matchs de poule, à savoir déjà le match d'ouverture et les matchs de l'équipe de France. Et puis, il y aura 5 huitièmes de finale, 3 quarts de finale et les demi-finales. Et puis, bien sûr, la finale en apothéose. C'est vrai que c'est très important. Ce sont des grosses audiences. Et d'ailleurs, TF1 a compris que le sport, même au féminin, pouvait fédérer de nombreux téléspectateurs. Souvenez-vous, la
Coupe
du Monde de football.
Attention, 2020, l'année du MeToo, n'avait plus le droit de dire même au féminin. Le sport féminin.
Le sport féminin, c'est vrai. Mais il faut quand même le souligner parce qu'au début, les chaînes étaient un peu frileuses à l'idée de diffuser du sport féminin. Il faut le souligner parce que TF1 l'a fait et s'est rendu compte que ça cartonnait. Souvenez-vous, la Coupe du Monde de foot féminin, les 3 meilleures audiences de l'année, je crois que c'est du football féminin.
C'est
du football féminin. Donc à partir de ce moment-là, TF1 va poursuivre sa percée sur le football féminin et sur le sport féminin même plus largement avec le handball aussi qui sera diffusé sur la chaîne.
La bonne nouvelle, Anne-Guérand-Renaud, c'est que c'est en clair, a-t-on précisé, c'est-à-dire la bataille du décodeur pour voir les matchs ou où est-ce que je vais pouvoir ces matchs, on va les voir là sur des chaînes généralistes et c'est plutôt une bonne nouvelle pour le téléspectateur.
Ça a toujours été, il faut bien différencier en sport, il y a les événements comme effectivement la Coupe du Monde ou l'Euro qui sont tous les deux ans, ça c'est toujours en clair, toujours. Et puis il y a les feuilletons.
En 2002, il y a eu la fameuse bataille en Corée, c'est une mission de service public que donnaient les matchs d'équipe de France, mais pour voir tous les matchs ou un grand nombre de matchs, là cette fois-ci, M6, TF1 prennent
exactement
en football la part.
Exactement.
La
et
part
alors, ce qui reste à faire, c'est tirage au sort pour la finale. Souvenez-vous, le dernier Euro, c'est M6 qui l'avait gagné. Ouais. Et à la clé, c'était quand même une audience de 17 millions. Donc ça a été la plus grande
et
audience.
Et ce sera tirage au sort là aussi. Là.
Ça sera encore tirage au sort, alors on ne sait pas. Si M6 a vraiment beaucoup de bol et auquel cas, il aura deux finales ou s'il y aura un petit retournement de situation et que TF1 pourra la diffuser.
La particularité des Jeux Olympiques, c'est qu'on va les suivre le matin finalement, la télé, avec le décalage
et
horaire.
Oui, c'est ça. C'est ça le problème. Et on l'a vu pour la Coupe du Monde de rugby, hein, qu'on a vu entre octobre et novembre sur TF1. Là, c'est pas des horaires extraordinaires. Ça a fait des belles audiences, mais quand même, il fallait se lever le matin, il faut être absolument motivé. Donc, il y a les passionnés qui sont là, et il y en a toujours beaucoup, mais il n'y aura peut-être pas l'intégralité de tous les téléspectateurs.
Pour les Jeux Olympiques, ouais.
Voilà,
et en même temps, ça booste des audiences à un moment où généralement on ne regarde pas trop la télé, et là on voit des parts de marché quand même qui montent.
Oui, non, mais effectivement, France Télévisions profite tous les 4 ans des JO, et tous les ans, vous l'avez dit, du Tour de France, parce que alors là, ça c'est son événement, et son événement qui fait que l'été, en règle générale, France Télévisions est loin devant toutes les autres.
Alors, puisqu'on évoque que l'actualité sportive spécifique à 2020, question que se posent énormément de téléspectateurs, comment est-ce qu'on va regarder la saison prochaine la Ligue 1 les droits ont été achetés par une société sino-espagnole, Mediapro, qui a mis 780 millions d'euros sur des droits globaux estimés à 1 milliard 150 millions d'euros, ce qui est énorme pour le foot français. Mais alors cette chaîne à 25 euros par mois, nous dit-on, pour voir tous les matchs de la L1, on ne sait pas encore à quoi elle ressemble, qui la fera et où on pourra la voir.
Il y a moins de 15 jours, le patron de Mediapro, Jaime Roures, qui est très très fort en Espagne, il faut le dire, est venu en France pour rassurer le monde du football. Ils sont allés voir tous les clubs professionnels qui, eux, avaient un tout petit peu peur. Ils sont allés voir la Ligue et puis ils ont fait une sorte de conférence de presse dans laquelle ils se sont montrés extrêmement rassurants. Oui, ils savent faire de la télé. Et ils en font très bien en Espagne. Oui, ils seront prêts. Et ça, c'est pas très très compliqué. Effectivement, trouver des locaux, c'est pas très compliqué. Ce qui va être compliqué, c'est de trouver des journalistes stars. Alors, il va y en avoir.
Les fameux consultants.
Les fameux consultants. Alors, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui peuvent être tentés de quitter RMC Sport pour aller chez Mediapro. Donc ça, ils savent faire. Après, ils savent produire. Et surtout, ce qu'ils ont demandé au club de football, c'est produire différemment. Parce qu'ils vont avoir les matchs, effectivement, le week-end et le week-end.
Quasiment tous, même si Canal va regarder
les
trois affiches.
C'est le match du samedi soir. C'est Canal qui l'a racheté à beIN. Enfin bon, 7 matchs sur 10 ou 8 sur 10, c'est quand même Mediapro. Et c'est pas facile quand on est abonné à une chaîne, vous avez dit 25 euros, c'est très cher, 25 euros.
Très cher, surtout si on doit déjà se payer une plateforme, voire deux plateformes.
Si on n'a pas grand-chose d'autre, et aujourd'hui Mediapro a ça, la Ligue 1, et puis un lot avec 266 matchs de la
l'Europa League, la petite
de l'Europa
Coupe
League, ouais. La petite l'Europa League et la nouvelle Europa League Challenge. Bon, ça c'est un peu compliqué, ça va pas passionner les foules. Il va falloir trouver des programmes dans la semaine, et ce qu'ils font très bien en Espagne et ce qu'ils veulent faire très bien en France, c'est d'être embarqué dans les
dans
clubs.
Dans la vie des clubs, ouais. Voilà. Qu'on soit à l'entraînement, qu'on soit en conférence de presse du club.
Exactement. Et voire même aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire faire des joueurs des stars, faire des feuilletons. Je ne parle pas de Kim Kardashian, mais enfin, c'est un peu ça l'idée quand même.
Feuilletonner autour des joueurs.
C'est feuilletonner autour des joueurs, des entraînements, des conflits. Voilà. C'est ça qu'ils veulent. Et ça, ça n'a pas encore été fait, ni jamais par Canal, ni par beIN Sport. Et c'est ce qu'ils veulent réussir à imposer.
Et Paris, donc, à suivre. Le seuil de rentabilité, ils espèrent avoir 3 millions d'abonnés à 25 euros par mois, il semble.
Non, on va être assez clair. beIN Sport est en France depuis 2012. Il n'a jamais gagné d'argent. Il en a perdu 350 millions par an. C'est le sport, et quand on n'a que le sport, c'est impossible à rentabiliser. Et surtout quand les droits sont, vous l'avez rappelé, 780 millions. Mmh. Vous imaginez, 780 millions par saison, sur 4 saisons. Donc ça va être très très cher. Rentabiliser me paraît extrêmement compliqué, voire même totalement impossible.
On peut imaginer que du côté de l'actionnaire chinois, il y a d'autres intérêts derrière.
Ah oui, ça effectivement.
Vous voulez pas les préciser ?
Non, parce que je ne les connais pas, donc je ne vais pas faire semblant. Mais l'actionnaire chinois, lui, investit dans Mediapro. Et Mediapro a une expansion européenne. Donc, il va perdre de l'argent en France, ça c'est pratiquement assuré. Est-ce que sur la France, l'Espagne, alors il n'a pas pu aller en Italie, mais France, Espagne, Italie, est-ce que en mutualisant
sur,
tout ça, on arrive à rentabiliser, ouais. Ça c'est une autre solution.
En sachant qu'en Chine se profile une Coupe du Monde, ils ne sont pas encore officiellement candidats, qui pourrait se dérouler en Chine en 2030, c'est en tout cas le projet qui a été, voilà. Qui a été
et
formulé.
Et c'est ce pourquoi
par
le Qatar avait investi dans beIN Sport à fond perdu, puisqu'ils ont perdu 1,2 milliard dans beIN Sport en France.
C'est ce qu'on appelle les joies du soft power. Aujourd'hui, on perd un peu d'argent, mais on gagne voilà. De l'influence, et l'influence, le prix ne se mesure pas toujours. Je parlais d'une année 2020 absolument capitale pour l'audiovisuel, car dès le début du mois de février, dans quelques semaines, débutera au Parlement l'examen de cette fameuse loi audiovisuelle, la première, il faut le rappeler, Damien Canivez, depuis 1986, et qui va changer beaucoup de choses, car elle va modifier tout le panorama de l'audiovisuel en France.
Oui, effectivement, François. Alors ça, je crois que c'est Enguerrand qui est capable de répondre à cette question, parce que pour le coup, je ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants de ce texte.
Même si, tout à fait concrètement, il y a déjà une bataille autour de la numérotation des chaînes, notamment les chaînes Tout Info, où BFM apparaît au numéro 15 et la première des chaînes. La deuxième, CNews, dit si on passe en premier numéro, on gagnera 0,2 ou 0,4% d'audience automatiquement, comme France 4 ne sera plus là. Il y a déjà cette bataille un peu anecdotique, mais qui m'a fasciné, moi.
Oui, alors c'est pas si anecdotique que ça, parce que c'est vrai que la télécommande étant face à nous, on a tendance à cliquer d'emblée sur la première chaîne que sur la deuxième, et si effectivement l'un prend la place avant l'autre, effectivement, il aura un avantage considérable. Ça, c'est d'une logique implacable.
Débat, évidemment, un peu anecdotique.
C'est pas du tout anecdotique. Il y a 4 chaînes d'info, ce qui est beaucoup en France. Il y en a 2, vous l'avez dit, BFM et CNews, qui sont à 15 et 16. Et puis il y en a 2, LCI et France Info, qui sont relégués en place 26 et 27, donc très très loin. LCI dit il faudrait qu'on puisse se battre à armes égales, c'est-à-dire tous ensemble.
C'est-à-dire on allume un des canaux de notre télé qui serait le canal Info et on aurait un écran avec
Il y aurait un bloc. Et là, LCI a tout à y gagner parce qu'il dit qu'il pourrait gagner entre 0,2 et 0,3 points. Alors là encore, ce n'est pas du tout anecdotique parce que ce qu'ils pourraient gagner, ça leur permettrait de passer d'une chaîne où ils perdent beaucoup d'argent à une chaîne où ils gagnent beaucoup d'argent. Et ça, c'est véritablement important pour le groupe TF1.
Tout ça pour une histoire de numéro, vous vous rendez compte,
la bataille des télés. C'est très important.
Alors cette loi sur l'audiovisuel, elle va... c'est la première depuis 1986, enfin...
Pas tout à fait, c'est la première grande, puisque effectivement, quasiment, statistiquement, la loi de 86 a été modifiée en règle générale tous les 2 ans. Et à un moment, c'était quasiment tous les ans, parce qu'il a fallu la modifier. Il y a eu une grande loi en 2005 pour faire rentrer la TNT. Ça a été une très, 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 très grande loi. Donc là, c'est la prochaine grande. Elle devrait être doivent être examinées au mois de février, vous l'avez dit. Simplement, le calendrier parlementaire prend du retard, puisque l'examen de la loi sur la réforme de la retraite, c'est un gros sujet, ça.
Oui,
c'est un très, très
dit,
gros
oui.
sujet. Donc ça risque de déborder.
Et d'être un petit peu plus tardif.
Et d'être
les
un peu plus
grandes
tardif.
Lignes, c'est d'adapter la télévision à l'arrivée des plateformes.
Exactement.
Et de garantir un certain nombre d'acquis pour la télévision, ou de sauver tout simplement la
Exactement.
Télévision.
Exactement. On peut dire il y a trois ou quatre volets. Le premier, c'est d'assouplir les règles très anciennes. Vous l'avez dit, depuis 1986, c'est très ancien. Et les chaînes historiques disent, écoutez, il faut absolument qu'on assouplisse certaines règles sur la publicité. Donc ça, c'est un côté assouplissement. La deuxième...
Donc ça veut dire qu'on aurait plusieurs coupures de publicité, plus de coupures publicité, ou une publicité plus segmentée, plus ciblée?
Alors, on va avoir la possibilité de pouvoir faire ce qu'on appelle des publicités ciblées, c'est-à-dire que la télévision aujourd'hui, elle met un seul écran, le même écran publicitaire pour les 8 millions de personnes qui sont devant Massinger. Ils pourront mettre autant d'écrans publicitaires qu'il y a de téléspectateurs, ce qui se fait sur Internet tous les jours, ou sur votre mobile. Donc ils veulent être sur le même plan, c'est-à-dire la même publicité ciblée, parce que plus c'est ciblé, plus ça vaut cher. Hein. Quand on vous cible, parce qu'on connaît vos goûts, ça vaut plus cher que quand on cible 8 millions de personnes dont on ne sait pas très bien s'ils veulent acheter une voiture.
Quiconque a un téléphone portable le sait.
Exactement.
Donc recherche ça, le prix d'un aspirateur, voilà. Et reçoit 27 messages dans la journée sur
exactement.
Les aspirateurs.
Exactement. Donc ça, c'est extrêmement important. Effectivement, est-ce que les téléspectateurs aimeront être ciblés? C'est un deuxième sujet.
En même temps, c'est cette publicité qui fait vivre le système privé.
Exactement. Il y a un autre sujet qui est un sujet encore plus technique, qui est sur l'assouplissement des relations entre les chaînes de télé et les producteurs de contenu, vous l'avez dit.
Mais il est fondamental.
Ça,
il est fondamental,
fondamental
en France où les auteurs veulent garder leur, voilà. Leur liberté d'expression, ce qu'on appelle le final cut, grosso modo que le producteur, et si le producteur et la plateforme, c'est le cas avec Netflix, vient dire non, moi si je veux vendre ce produit-là en Corée, en Amérique du Sud, je ne veux pas de cette scène-là qui ne passera pas, le réalisateur veut garder sa signature.
Oui, effectivement, c'est vrai que c'est important aussi de clarifier la relation entre les producteurs et les diffuseurs, mais ce que disait aussi Enguerrand concernant cette publicité ciblée, ça va aussi s'inviter très certainement dans les émissions de divertissement, puisque vous avez l'habitude de voir des produits, du placement de produits dans les séries, ce qu'on peut voir d'ailleurs sur Netflix, puisque c'est parfois inscrit en haut de votre écran, cette série a recours au placement de produits, bien dans les émissions de divertissement, comme c'est le cas par exemple pour Massinger, qui est une émission de divertissement sur TF1, vous pourriez voir par exemple les marques de bouteilles d'eau des jurés sur la table, parce que là aussi ça pourrait générer de l'argent pour la télévision qui en a besoin, ça pourrait se chiffrer à plusieurs millions d'euros également, donc c'est vrai que c'est aussi important à souligner, parce qu'on en voit partout aujourd'hui aussi sur les réseaux sociaux, hein. Vous savez, ces stars de télé-réalité qui gagnent beaucoup d'argent, voilà, ces influenceurs qui à travers des stories vous expliquent que ce télé-là est formidable, ça pourrait s'inviter dans les émissions de divertissement prochainement.
L'objectif de cette loi est d'essayer de préserver une forme d'exception française et de faire payer les plateformes, comme aujourd'hui la télé paye pour le cinéma notamment.
Exactement, aujourd'hui les plateformes ne payent rien, ou très très peu, ils ont une sont assujettis à la TVA, ça c'est normal, à une petite taxe sur le CNC qui était de 2,5% et qui monte à 5%, mais on va leur demander, comme une chaîne de télé, de payer pour la création française et la fiction française. Ils vont payer au minimum 16% de leur chiffre d'affaires, donc. Et ça, c'est extrêmement intéressant.
Et ça les énerve beaucoup, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres pays où ça se produit.
Aucun. Non, mais c'est ce qu'on appelle l'exception culturelle française, et c'est très bien, parce qu'ils aiment ça, finalement. Ils aiment beaucoup l'exception culturelle française, in fine. Ils
râlent. On rappelle que dans le cinéma, il y a eu plus de 210 millions 213, d'entrées en France, qu'on est le dernier pays d'Europe à pouvoir produire 200 films par an, aussi made in France.
Alors, non seulement on leur demande de payer, mais en plus, on va leur imposer ce qu'on appelle des quotas d'exposition des œuvres, et 30% d'œuvres européennes. Européenne et française. Alors là, c'est un comble, parce que quand on appelle une chaîne à la demande, Netflix, je ne sais pas comment vous le consommez, mais moi, je n'aime pas qu'on m'impose quelque chose, même s'il y a des algorithmes. Donc je vais
chercher.
Ça arrive
direct, dès la fin de la série, aller regarder celle-là.
Je vais chercher les séries qui m'intéressent, peu importe qu'elles soient française, européenne, ou je ne sais pas, russo-moldave.
Vous pouviez dire bulgare, il y a une très belle version de Undercover bulgare.
Voilà, exactement. Donc ça va être très très compliqué.
Allez, pour finir, on a essayé de baliser ce panorama, l'un et l'autre, une soirée télé de 2020 que vous ne voulez absolument pas raté ou un moment de télévision qu'il faut, vous l'avez déjà coché sur votre agenda 2020. Damien Canivet.
Allez, un moment de télé que je ne voudrais pas manquer, en tout cas pour rien au monde, parce que je suis un passionné de politique, François, vous savez, c'est les municipales, ça va être un gros rendez-vous aussi en 2020.
Alors, j'aurais pas attendu
vous l'avez
ça.
Oublié, oui. Eh oui, mais il faut le dire aussi.
Bon, j'y crois pas une seconde.
C'est parce qu'Enguerrand est face à moi et j'ai envie de faire le bon élève, mais vous savez que ça va être très important puisque ce sera en mars prochain et les chaînes vont aussi se mobiliser pour retransmettre un maximum de choses, en tout cas pour faire en sorte de le couvrir cette échéance électorale du mieux possible. Alors, on sait que le service public va se mettre sur le créneau, là, on voit beaucoup de numéros de Vous avez la parole dans le cadre de la grève contre la réforme des retraites, mais on imagine que le service public va mettre les bouchées doubles, notamment grâce aux antennes locales de France 3. Après, le problème, c'est que la politique, ça ne marche pas, la télévision, même si c'est passionnant, puisque moi, ça me passionne, mais je sais que TF1 ne va pas forcément faire de magazine d'information sur ce créneau-là, parce que ça fait souvent moins de 10% de part d'audience en première partie de soirée. C'est
même
pas
si le climat social peut redonner vigueur au climat politique
non,
dans les prochaines semaines.
Le dispositif du groupe TF1 va être assez simple, ils vont passer un film le dimanche soir, TF1, ouais. Et c'est LCI qui fera la soirée électorale. Voilà, ils arrivent à se
voilà.
Répartir.
L'info sur LCI et le divertissement sur TF1.
Exactement.
Allez, un moment de télé que vous ne voulez absolument
pas
rater.
Je ne vais
pas
faire semblant de me passionner pour les municipales. En revanche, j'adore le foot et donc le 12 juillet, la finale avec la France. Et par définition, elle va gagner. Donc je serai devant.
Et vous serez donc tous dans la rue et de là, les chaînes d'infos iront filmer la rue et on regardera les chaînes d'infos. Bon, on n'a pas tout balisé en 2020, on aurait pu parler de l'élection américaine parce qu'il va y avoir énormément de reportages et d'émissions autour des États-Unis de Trump. Mais vous avez compris l'enjeu de cette loi audiovisuelle qui arrive très vite au Parlement. Vous avez compris finalement que les plateformes, dans un premier temps, vont nous permettre de déguster beaucoup plus de programmes. Il faudra juste faire le tri dans ce choix très riche qui se profile. Merci à vous d'être venu en ce 1er janvier sur Europe 1. Damien Canivet, qu'on peut lire à TV Mag.
Bien sûr, merci à vous François.
Bonne année, bon meilleur vœu et bonne
également.
Année télévisuelle. Et à vous, Enguerrand Renaud, rédacteur en chef Médias et Technologies au Figaro. Bonne année 2020.
Merci et bonne année François.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, François Claus.
Et avec nos invités, ce matin, François, on va parler de bien-être.
Et comme nous sommes un 1er janvier, qu'il y a peut-être encore les effluves de la fête, et si ce n'est pas le cas, c'est la journée de toutes les bonnes résolutions, eh bien si on commençait 2020 comme ça. Bonjour Nathalie Cohen.
Bonjour.
Ça vous va comme introduction pour l'année 2020 ?
C'est une très belle introduction, elle est zen, paisible, avec un petit zeste de bol chantant derrière.
Voilà, zen, paisible, et c'est ce que vous incarnez, vous qui êtes éditrice de magazines. Alors je les ai tous devant moi et je dois dire que j'ai découvert de manière extraordinaire cette pléthore de magazines de très grande qualité, psychologie positive, respire, créer du temps pour soi, Miss Respire, Yoga Magazine, Simple Things, Happiness. Tout ça c'est vous, c'est votre groupe de presse, Oracom, qui développe donc cette presse classique, hein, on dit bien, c'est du papier,
Du papier
de qualité, de très belles illustrations, et qui rencontre son public. Comment vous expliquer c'est beaucoup plus qu'une mode, c'est un courant profond qui anime notre société et notre temps.
Oui, c'est un courant profond, et je me souviens que quand on a lancé Happiness le 10 janvier 2014, j'ai vraiment eu l'impression qu'on avait appuyé sur un bouton et que toutes les personnes se levaient en disant « Ah, mais alors, tout ce que je ressens, toutes ces questions, tout ce chemin, finalement, on est tellement nombreux à le partager. »
Vous l'attribuez à une forme d'inquiétude de l'ère du temps. On ne sait pas trop où on va, on a des valeurs qui disparaissent, on a cette menace écologique au-dessus de la tête. Et tout ça, en tant qu'individu, pèse sur nous.
Je lisais il n'y a pas très longtemps un livre qui n'est pas encore paru. Et c'était un passage sur la neuroplasticité du cerveau. Et ça m'a fait penser, ça m'a vraiment donné l'impression qu'en fait, l'humanité était en train d'évoluer profondément et qu'on passait d'un système où on avait eu l'habitude pendant des centaines de milliers d'années d'être en mode survie et où la première question qu'on se posait le matin en se réveillant, c'est est-ce que je vais trouver à manger et est-ce que je vais mourir ou est-ce que je vais survivre ? Là, la première question que vous vous posez le matin, c'est pas est-ce que je vais trouver à manger en général. C'est plutôt est-ce que je vais passer une bonne journée ? Est-ce que je vais me sentir bien ? Est-ce que je vais... Voilà, est-ce que... Et du coup, je pense plutôt que notre cerveau, avec cette appétence pour tous ces outils de développement personnel, est plutôt en train d'essayer de se muscler pour voir les choses différemment et sortir du mode survie, justement, qui permet d'aller vers plus de sérénité et d'épanouissement.
Alors, on le mesure avec, évidemment, la mode, le phénomène du yoga aujourd'hui en France et de la... méditation. Je vous propose d'écouter par exemple ce que disait ce monsieur, un grand spécialiste de la méditation, monsieur Arnaud Rioux.
Si j'apprends à méditer, si j'apprends à comprendre mes émotions, si j'apprends à dépasser mes émotions, je serai réellement de plus en plus heureux, ça c'est certain. Parce que l'expérience montre que la méditation nous apaise, que la méditation nous aide à avoir une meilleure santé, des relations plus saines, plus sereines, une vision plus claire.
C'est ce que vous prônez et les conseils que vous donnez dans l'ensemble de vos magazines.
Oui, et c'est un peu comme si la méditation équivalait pour votre cerveau à une bonne activité physique pour votre corps.
Alors, je vais donner quelques-unes des unes qui sont devant moi. Plus jeune avec le yoga, relâcher la pression, tout est possible. Au secours, ma fille est influenceuse. Qu'est-ce que je dois faire ? Ça, c'est un conseil de psychologie positive. D'ailleurs, psychologie positive.
Pourquoi
vous avez choisi d'appeler votre magazine ainsi ?
Parce que c'était la volonté de faire passer tout de suite le message que la ligne éditoriale était de s'appuyer sur nos forces et non pas de nous considérer comme un simple amas de névrose qu'il fallait à tout prix dépasser, digérer, etc.
Ça, c'est la manière dont on percevait la psychologie, vous voulez dire.
Oui, c'est la psychologie à l'ancienne.
Un public différent pour l'ensemble de ces magazines. Vous ciblez les ados, les personnes âgées, les...
Alors, les personnes âgées, elles se retrouvent partout. En revanche, le seul qui soit vraiment réservé aux ados laissantes, en l'occurrence, c'est Miss Respire, qui est le premier magazine de pleine conscience pour les adolescentes. Et en revanche, tous les autres, je crois qu'ils correspondent au même public, mais qui ne se posera pas les questions de la même façon. Qui cherchera peut-être plus de spiritualité, qui cherchera plus de pratiques, ça va dépendre, qui cherchera plus de sciences. Psychologie positive, il est vraiment axé sur les études scientifiques, les études sur le bonheur, sur le fonctionnement du cerveau, etc. Happiness, pour le coup, c'est vraiment un magazine dont la vocation est de nous accompagner pour unir l'intérieur, l'extérieur, sur le chemin. C'est pas un magazine pratique, il vous dit pas si vous faites... alors après, évidemment, parfois, il y a un peu de pratique dedans, mais c'est vraiment un magazine...
D'ailleurs, je vais vous lire ce qui est le slogan, hein, « Fais de ton mieux et n'oublie pas d'être heureux ».
De Christophe André.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, François Claus.
En ce début d'année, vous avez sûrement pris de bonnes résolutions, dont celle de rester zen. Ça tombe bien, on parle de bien-être dans Culture Média. Et on en parle, François, avec Nathalie Cohen, qui est éditrice et directrice générale de Oracom, un acteur média de référence qui réunit plusieurs magazines, dont Happiness, Respire ou encore Psychologie Positive.
Oui, nous sommes avec Nathalie Cohen en pleine méditation. Vous entendez à sa voix cette douceur qui se dégage de ses propos avec l'ensemble de ces magazines, Psychologie Positive, Happiness, Simple Things, Miss Respire, qui aujourd'hui rencontrent leur public en kiosque. Le phénomène de se retrouver soi-même à travers la méditation, le yoga, de s'apaiser, on le retrouve évidemment sur les réseaux sociaux. Également, écoutez.
La respiration peut aussi nous accompagner plus ponctuellement dans notre quotidien. Si par exemple vous prenez une grande inspiration et vous relâchez tout, est-ce que vous n'avez pas cette sensation d'avoir libéré un poids, de vous être détendu juste en une inspiration, une expiration, votre diaphragme est beaucoup plus souple, votre gorge est vidé, tout est beaucoup plus léger, et ça juste en une inspiration expiration. Imaginez ce que ça peut faire quand vous répétez l'exercice plusieurs fois.
Le bonheur, c'est simple comme une respiration.
Presque, oui.
La jeune femme qui s'exprimait s'appelle Safia Ayad, et ça tombe bien, elle est au téléphone avec nous. Bonjour Safia.
Bonjour.
On regardait avec l'équipe de Culture Média, vous avez 1 300 000 followers, des gens qui vous suivent dans le monde depuis que vous distillez vos conseils de méditation et de yoga. Vous avez créé une vraie relation avec un très très large public.
Oui, c'est vrai. Bah, ça fait plusieurs années que j'ai commencé à travailler sur les réseaux sociaux. Il y a toujours eu un fond de spiritualité, de bien-être, tout ça. Et plus le temps passe et plus ça fait partie, ça prend de la place finalement dans ce que j'ai envie de partager. Parce que tout ce qui est méditation, tout ce qui est yoga, tout ce qui est développement de soi, connaissance de soi, relation aux autres, c'est des sujets qui, moi, me nourrissent au quotidien, qui me font aller bien et avancer sur mon chemin. Donc, je me suis dit, il faut absolument que je puisse le partager aussi au plus grand nombre.
Alors, vous faites très régulièrement des conseils, des petites vidéos. Vous allez même organiser une sorte de grand cours collectif au mois de janvier.
Oui, c'est ça. Je donne déjà des cours de yoga régulièrement en France, mais j'habite à Barcelone et là, pour la première fois, je vais donner un workshop autour du yoga et du bien-être ici chez moi à Barcelone, dans un studio plein de lumière et plein de belles énergies, avec principalement des femmes pour se reconnecter un petit peu à notre essence féminine, à notre puissance féminine. Et voilà, ça va être une grande première ici.
Qui sont vos followers, Safia Ayad?
C'est principalement des femmes. C'est des femmes qui, en plus, ont grandi avec moi, comme ça fait 7 ans maintenant que je suis présente sur les réseaux sociaux. On était jeunes adultes et maintenant, pour certaines, on est maman, on est installé dans nos vies, etc. Et c'est des femmes qui, généralement, sont actives, mais qui, en même temps, sont dans une quête de sens, comme on l'est toutes. Entre 20 et 30 ans, ou même après, il y a toujours un chamboulement qui s'opère. Et donc, ces femmes-là, elles ont besoin qu'on leur donne quelques petites astuces, quelques petits tips, quelques petits conseils pour continuer à être bien dans leur basket, bien dans leur vie, aussi bien émotionnellement, spirituellement que physiquement aussi.
Et de se rassurer, qu'il s'agit d'une démarche quasiment collective et sociétale. Nathalie Cohen, vous confirmez que votre lectorat serait à vous aussi plus féminin que masculin ?
Oui, il est largement plus féminin. Et pour le coup, il touche vraiment de la jeune femme de 18 ans à la femme de 70, voire 80 ans. On a des lectrices, voilà. Le cœur de cible, pour utiliser du jargon marketing, on pourrait dire que c'est du 40-45 ans.
40-45 ans et plutôt femme. Le pourcentage,
plutôt femme.
Le pourcentage d'hommes, il faudrait peut-être amener les hommes là.
Alors sur Happiness, on a 15% de lecteurs hommes. Sur Psychologie Positive, on a plus d'hommes. Je trouve qu'on doit être à 25 ou 30% d'hommes. En fait, ça dépend des magazines. Sur Yoga Magazine, on a aussi beaucoup d'hommes. Sur Respire, c'est pareil. C'est un peu plus masculin.
Alors, question un petit peu basique. Moi, je me demande quand même, avec cette profusion de presse, alors ce sont des mensuels ou des bimensuels, on arrive à renouveler les articles, les thèmes que l'on traite ?
Oui, on arrive à les renouveler. Et puis, on peut traiter d'un sujet. C'est comme de la musique. Hein. Vous pouvez écouter le même morceau joué par différents musiciens et vous n'entendrez jamais la même chose. Ces sujets-là sont sans fin. Et de la façon dont ils vont être écrits, avec l'angle qu'ils vont avoir, ils vont vous toucher différemment, ils vont vous parler différemment, à un moment où vous serez prêt, etc. Donc oui, il y a vraiment de la matière.
En ce qui concerne Miss Respire, dont le titre est le surtitre « Enfin un magazine inspirant pour les ados », cette démarche vis-à-vis d'une jeunesse dont on parlait peut-être tout à l'heure dans la première partie de l'émission, qui passe 6 heures devant ses écrans, vous apportez une autre vision et une autre manière de vivre à cette jeunesse, et vous sentez qu'il y a du répondant ?
Oui, il y a du répondant. Alors déjà, les mamans étaient absolument ravies que le magazine existe. Et puis, on a un vrai engouement de la part des adolescentes qui s'y retrouvent et qui retrouvent énormément de réponses à des tas de questions qu'elles se posent, des tas d'angoisses pour lesquelles elles avaient pas de réponse avant. Il y a pas mal de mamans aussi qui nous ont écrit « Oh, mais si j'avais pu avoir ce magazine quand moi j'étais adolescente !» Et c'est, voilà, c'est aussi ce que j'aurais voulu moi lire à cette époque-là. Et que j'espère ma fille va le lire.
Ben, elle est juste derrière vous, votre fille. Elle vous a accompagné en ce 1er janvier. Il y a encore un petit peu de temps.
Hein. Oui.
Nous sommes le 1er janvier 2020. Allez, destinez-nous un bon conseil pour cette année 2020 à tous nos auditeurs.
Pensez avec le cœur.
Et de votre côté, Safia Ayad, votre conseil à tous nos auditeurs en ce 1er janvier 2020.
Pensez avec son intuition. On a toujours la réponse en nous.
L'intuition et le cœur, eh bien, on va les travailler et on en reparlera sûrement dans l'année. Bonne année à vous avec votre cœur et votre intuition, Nathalie Cohen.
Bonne année à vous également, merci.
Et bonne chance donc à Auracom qui édite l'ensemble des magazines dont on a parlé ce matin, qui est un véritable phénomène de presse et qui méritait ce coup de projecteur. Merci à vous également depuis Barcelone, Safia Ayad, de nous avoir accompagnés. Et donc, bon cours collectif le 11 janvier prochain, vous m'avez dit.
Le 11 janvier, c'est ça, oui, merci.
Restez bien à l'écoute, hein. Poirette, Béliard, Lévy,
du beau monde.
Larmoyer pour leurs indispensables dans un instant.
Et merci d'avoir choisi Europe 1 ce 1er janvier 2020. Il est 10h. L'info, c'est avec vous, Marguerite Lefebvre.